c'est la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Alain Minc, essayiste. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour la poursuite de ce grand jury avec vous, Alain Minc. Le débat en France, c'est « il faudra bien en passer par un plan de relance pour soutenir la consommation ». Vrai ou faux ?
J'entends d'ailleurs les mêmes qui disent plan de relance pour soutenir la consommation qui depuis cette semaine disent notre endettement est insupportable.
Alors j'aimerais bien. Vous croyez que c'est les mêmes ?
Oui, oui. Vous verrez, ça se croise. Si, si.
Je suis pas sûr que ça se croise tout le temps.
Ça se croise pas mal quand même. Ouais. Deuxièmement, je crois et je me permets de revenir sur un point que je soulignais tout à l'heure, qu'il faut faire la part entre les pays où les ménages sont endettés et où les ménages ont de l'épargne. Aujourd'hui, il faut aider ceux qui sont dans la crise. Et c'est aider la consommation parce qu'en effet, comme ils n'ont pas d'épargne, quand on leur donne 500 euros, ils n'ont pas d'autre choix malheureusement que de les dépenser. En revanche, si vous arrosez d'incitation à consommer une classe moyenne qui épargne quand même, n'oublions pas que la France est le recordman de l'OCDE en termes d'épargne. Nous épargnons 16% de notre produit intérieur. Eh bien, ça ira rejoindre les bas de laine. Et donc, le problème, et on rejoint ce que vous disiez sur la confiance, le problème du pays, c'est que s'il y avait la confiance, il consommerait plus. Étant entendu, d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, que pour ce qui est de janvier et pour ce qui est de février, la consommation globale relativement bien tenu.
On a les chiffres de janvier, effectivement, oui. mais les spécialistes disent, alors je ne sais pas que ça, c'est vraiment les effets de conjoncture
qui
ne dureront pas.
Février, quand même, il y a eu des effets. Mais on ne peut rien dire pour mars. Mais je pense qu'un plan de relance global par la consommation taperait à côté de la plaque, d'une part, et que d'autre part, nous n'en avons pas les moyens.
Vous seriez plutôt favorable à l'augmentation, par exemple, des bas salaires, des minima sociaux
Attendez. Vous avez dit trois choses.
Oui.
Le SMIC, on sait, et d'ailleurs, même la CGT n'appuie pas beaucoup sur la pédale, que si on augmente le SMIC, en réalité, on fabrique du chômage. Ce qui montre d'ailleurs une compréhension de la réalité économique des syndicats à laquelle il faut rendre hommage.
Ils sont moins marxistes que vous.
Les syndicats c'est bien pour ça que je suis le dernier. Moi, j'ai une admiration sans borne pour ce que fait Bernard Thibault à la tête de la CGT.
Ah ben ça, c'est une nouvelle.
Tu vois. Oui, et ça vous choque?
Ah, ça me choque pas, c'est une nouvelle. Un journaliste, quand il dit c'est une nouvelle, en général, il est content.
Ouais.
Quand tu as jugé le fond de la nouvelle.
Et je me réjouis que la loi sur la représentativité syndicale renforce et la CGT et la CFDT d'avoir des vrais syndicats puissants. Deuxièmement, les minima sociaux, c'est tout autre chose. Ça ne pèse pas sur la productivité. Franchement, je trouve que le plan jusqu'à présent pour aider les plus malheureux est à peu près bien calibré. Peut-être qu'il faudra faire pour eux davantage, mais pour eux, et à mon avis, pour eux seulement.
Étienne Moujotte.
Alors, toujours en France, on entend en gros les banquiers nous dire, ça y est, c'est rétabli, il y a maintenant des ouvertures de crédit aux entreprises. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent, c'est faux, quand je vais chez mon banquier, je n'arrive pas à obtenir un crédit, et c'est même parfois dramatique. Qui croyez-vous entre le banquier et l'entrepreneur aujourd'hui ?
Écoutez, j'ai l'impression que les entrepreneurs avaient totalement raison de ce point de vue à l'automne. Si j'en crois quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'affection, qui est le médiateur du crédit, les choses sont quand même en train de se normaliser pas mal. Reste que les banques sont en train de refaire leurs marges. Et que donc, ils obtiennent des lignes, mais à des prix nettement plus élevés. Mais le nombre de cas qui arrivent quels sont les cas qui arrivent désormais sur le bureau de René Ricol, le médiateur du crédit, ce sont toutes ces opérations financières, tous ces LBO qui explosent. Et là, c'est un enjeu majeur parce que vous avez des dizaines de milliers d'emplois qui sont mis en danger par des constructions purement financières et purement artificielles.
Alors, la régulation et la dérégulation du monde capitaliste, vous avez beaucoup écrit dessus, vous dites c'est l'ADN du système. Il va y avoir un sommet important à Londres au mois d'avril qui intéresse la France. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne se déplacerait pas s'il se passait rien à ce sommet. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un sommet comme celui-là? Gordon Brown, par exemple, devant le Congrès américain, a suggéré, à la surprise un peu générale, l'interdiction des paradis fiscaux. Est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce qu'il faut réglementer les agences de notation? Est-ce qu'il faut revoir les fameuses normes comptables? Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet?
Au fond, il y avait trois positions au départ dans cette affaire. Il y avait les Européens continentaux qui sont à peu près tous d'accord, c'est-à-dire les Allemands et les Français. Et de ce point de vue, Madame Merkel a des positions au moins aussi fermes que Nicolas Sarkozy, en particulier en matière de hedge funds, c'est-à-dire de fonds spéculatifs et de paradis fiscaux. Il y avait les Anglais dont on pensait que pour le confort douillet de la place de Londres, à la fin des fins, ils caleraient. Le discours de Gordon Brown montre qu'il rejoint à peu près la position des continentaux. Puis il y a une immense inconnue, c'est que, et ça rejoint ma remarque sur la faiblesse pour l'instant de l'administration Obama en matière financière, on ne sait pas ce que pensent les Américains. Or, faire quelque chose sans les Américains, c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce que les Américains voudront faire? Est-ce qu'ils voudront aller loin? On n'en sait rien. On est tous, enfin, le bon sens, ce serait quoi? C'est limiter les effets d'endettement qui permettent à ces fonds spéculatifs de jouer sans contrainte. C'est si possible d'interdire les paradis fiscaux ou de pénaliser le recours aux paradis fiscaux. C'est, et ça, alors, le troisième point se fera, c'est de changer, mais c'est de la cuisine, les normes comptables pour qu'elles aggravent pas les comportements dans les pires moments, mais qu'elles aient plutôt un effet contraire. Les agences de notation, c'est en fait un faux sujet. Et c'est un faux sujet pour la raison suivante, c'est que les agences de notation en ce moment sont plus indispensables que jamais, et elles le seront encore plus quand les banques centrales prendront en réalité le papier des entreprises, parce qu'il faudra bien noter les entreprises. Donc les agences de notation, ça a servi un peu de bouc émissaire, c'est secondaire. Et puis le dernier point que vous citiez, à part les agences de notation, c'est les normes comptables. Et il y avait...
Dans les paradis fiscaux.
Les paradis fiscaux, vous n'avez pas fait le tour, mais on nous présente ce G20 comme un moment très important, oui. Peut-être décisif dans la crise. On exagère quand même, non?
Ça dépend de M. Obama.
Non, mais même...
Moraliser
le fonctionnement du capitalisme, ça n'est pas résoudre la crise actuelle.
Non, mais ça, c'est simplement éviter la crise suivante.
Oui, c'est ça.
C'est pas sans importance. Hein.
Non, j'en suis d'accord, mais enfin, c'est pas de là que naîtra l'embellie que l'on attend.
La reprise à 3 mois ne se joue pas le 2 avril à Londres. D'accord. Mais l'absence de crise, peut-être en 2014, se joue peut-être à Londres.
D'accord. En France, toujours, revenons, moi, j'aime bien quand même qu'on y revienne. Le président de la République a dit, moi j'ai une idée, répartir en 3/3 les bénéfices des entreprises. Réaliste ou pas?
Écoutez, c'est un message politique. C'est-à-dire que... répartir en 3/3, il y a des entreprises où c'est possible. Le groupe actionnaire d'un des journaux ici représenté le fait depuis longtemps.
Le groupe d'Assaut.
Le groupe d'Assaut, mais ça je vous laissais dire, Étienne.
Il y a des choses.
Hein. Le fait, mais c'est un groupe qui a l'essentiel de ses activités en France. Quand vous avez des activités à l'international multiples, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, je pense qu'il y avait un message subliminal de la part du président de la République qui était bienvenu, compte tenu de l'état d'esprit actuel du patronat, c'est de leur dire, faites attention à ne pas aller trop loin en matière de dividendes, quand même. Deuxième, donc, hiérarchisez vos relations en ne mettant pas tout sur une bonne relation avec les actionnaires internationaux. Tenez compte de votre main-d'œuvre et faites un effort. Et ça peut exister. Je vais vous donner un exemple assez étonnant d'une entreprise dont les salariés possèdent 20% du capital ou 25% du capital, qui est le numéro 3 du BTP qui s'appelle Eiffage. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de licenciement a été décidé par le patron. Il a réduit sa propre rémunération pour le symbole, mais il l'a fait.
Il gagne 1,6 million d'euros par an.
Oui, mais il a réduit 10%, c'est un symbole. Et il a surtout donné une prime en enlevant, en déplaçant 50 ou 60 millions d'euros, je ne sais plus, de son compte de résultat, une prime à l'ensemble de ses salariés de 500 ou 600 euros. Bon. Je trouve que ce qu'il a fait est exemplaire. Et je crois que le message, en réalité, de Nicolas Sarkozy, c'est pas d'imposer une mesure type Gosplan, un tiers, mais c'est de dire au patron, vous devriez réfléchir un peu différemment.
Vous dites les patrons, vous avez l'impression qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise en France ne comprennent pas la crise, ne s'y adaptent pas, ne jouent pas le jeu, sont rétrogrades, sont aveugles?
Écoutez, j'aurais adoré, c'est un milieu où je vis et certains d'entre eux sont mes clients professionnels, donc ce que je vais dire va à l'encontre de mes intérêts. J'aurais adoré que le patronat français fasse ce qu'a fait le patronat allemand. C'est-à-dire que les patrons du DAX, c'est l'équivalent du CAC 40 allemand, ont signé un accord avec le gouvernement allemand disant « Voilà le code de comportement que nous allons suivre pendant la crise et nous ne recourrons au licenciement vraiment que contraint et forcé. » Je trouve qu'il y a trop de patrons français qui ont fait des annonces de licenciement massif du style 15 000 salariés, dont d'ailleurs que 1500 en France. Mais qu'est-ce que croient les Français? Que ça fait 15 000 emplois en France, le tout dans l'espoir de faire remonter leur cours de bourse, l'encéphalogramme demeure plat, et je pense qu'il y avait là une attitude un peu incivique, oui.
incivique, lié à quoi ? Une incompréhension de la crise ou alors une mentalité rétrograde ?
Vous savez, je pense que les classes dirigeantes françaises, je ne vais pas vous offrir à tous les trois, vous l'avez lu, l'étrange défaite de Marc Bloch. Je pense que les classes dirigeantes françaises sont parfois plus individualistes que collectives. Et je vais vous en donner un exemple. Ma vie professionnelle m'amène à beaucoup fréquenter l'Espagne. Il faut voir ce qu'est la crise en Espagne. 200 000 chômeurs chaque mois depuis deux mois. Donc 200 000 chômeurs en Espagne, ça fait 300 000 chômeurs en France.
200 000 en janvier, 150 000 en février.
Et vous multipliez par un tiers pour avoir l'équivalent. Eh bien, je trouve qu'il y a une réaction de solidarité du patronat, des syndicats, du gouvernement qui est exemplaire. En France, il y a, de ce point de vue, il y a quand même eu un grand absent au sommet social. Je veux dire, le gouvernement et les syndicats ont dialogué. Le patronat était quand même un peu aux abonnés absents.
Est-ce qu'il ne faut pas quand même faire la différence entre le patronat du CAC 40, des grandes entreprises ou des très grandes moyennes entreprises, et puis ces centaines de milliers.
Vous avez raison.
Mais oui, non,
mais vous avez
ceux-là,
raison. Nous,
ceux-là
vous...
qui se battent pour faire les fins de mois, qui assurent la paye,
vous avez raison.
Ils ne sont pas représentés au CNPF, au MEDEF, pardon.
Non, mais je suis. Non, mais vous avez raison de me corriger. J'ai fait une comparaison avec le DAX, c'est-à-dire le CAC 40 allemand. Mais ma critique ne s'adresse absolument pas à ces patrons qui vivent une vie quotidienne aussi, au moins aussi dure que leurs salariés, voire plus dure. Et donc je vous rends les armes.
Ils n'ont
et
pas
vous
de
avez
bonus, cela.
Vous avez eu 100 fois raison de me corriger.
Laurence Parisot vous répondra peut-être avec un peu de vigueur, parce que cette mise en cause du MEDEF au sommet social, venant de vous, peut-être c'est vrai, on ne l'attendrait pas comme ça.
Mais écoutez, c'est très bien, il faut être dans des positions que aucun croit inattendues, non.
Laurence Parisot, quel jugement vous avez sur elle, qui dirige aujourd'hui le MEDEF à la main ?
Écoutez, je trouve qu'elle a fait un début de parcours formidable. Je n'aime pas tellement le discours patronal, je viens de le dire, depuis quelques semaines ou quelques mois. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire, il faut baisser les charges quand on est face à cette crise. Je pense qu'il y a des comportements à définir. Elle l'a fait en matière de rémunération en prenant l'initiative. Je me demande si le MEDEF ne commence pas à être immobilisé par ses propres problèmes électoraux internes.
Puisqu'on est à la galerie de portraits, tiens, on va peut-être citer deux, trois noms comme ça. Une singularité française, Olivier Besancenot. Le Nouvel Observateur faisait un portrait de Jacques Chirac fin février. Alors, moi j'ai eu la surprise de lire, entre guillemets, donc dans la bouche de Jacques Chirac, à propos d'Olivier Besancenot, quand il est passé chez Drucker, il m'a touché le petit facteur, ni de droite ni de gauche, du cœur.
Oui, écoutez, je trouve d'abord que la Providence, à laquelle je ne crois pas, a fait une grosse erreur en donnant un visage d'ange à Olivier Besancenot. Et que beaucoup de ce qu'est Besancenot tient à cette silhouette sympathique. Deuxièmement, un type qui dit, au moment où il accueille dans son mouvement Rouillant, c'est-à-dire l'assassin de Georges Besse, le président de la régie Renault, « Oui, Madame Besse a un problème avec Action Directe, je considère qu'on est à la limite du salaud. »
D'accord, ça c'est dit, mais on ne peut pas réduire Olivier Besancenot à cela.
Non, si il est l'expression...
Cette indignation-là, on peut la comprendre.
Il est l'expression habile d'une radicalité qui n'existe qu'en France, et qui est assez nouvelle, parce que on avait assez bien compris comment on pouvait passer des 20% de vote communiste aux 15% de vote FN. Et d'ailleurs, c'était pour une part les mêmes. Cette radicalité-là, c'est pas la même. Ce sont d'autres couches sociales, d'autres milieux, et c'est un phénomène difficile à expliquer.
Mais... Qui peut connaître du succès aux élections européennes, sans doute ?
À coup sûr. À coup sûr, parce que là, c'est des élections pour rire, donc...
Et poser un problème peut-être à la démocratie française, déséquilibrer la gauche, non ?
Oui, enfin, l'expérience a montré qu'au deuxième tour, jusqu'à présent, ils votent quand même classiquement. Mais c'est une radicalité... Souvent, la France a le sens de l'exception en inventant les radicalités avant les autres.
Est-ce que ça ne tient pas aussi à, on va dire, une certaine faiblesse du Parti Socialiste ? Et que dès que le Parti Socialiste reprendra des couleurs... Inévitablement, ça affaiblira cette extrême gauche, cette ultra gauche.
Je suis pas convaincu parce que je pense que le Parti socialiste, s'il veut reprendre des couleurs, devrait ressembler à ses congénères européens, c'est aller plutôt vers le centre et avoir une posture. J'emploie pas le mot blériste, saléériste, mais disons à la Felipe González. Et à ce moment-là, il laisse l'espace ouvert à l'extrême gauche.
Mais le centre est occupé. Il y a François Bayrou. Qu'est-ce que vous pensez de François Bayrou ?
Écoutez,
dans le livre.
C'est très en deçà de ce que je pense.
Dans le livre, c'est
dans
très en deçà.
Ouais, ouais. Alors allez-y, je me libère, je me lâche.
Les micros sont ouverts.
Je veux dire d'abord que je trouve quand même que l'héritier de la démocratie chrétienne, devenant une espèce de le pen light, c'est-à-dire à la recherche de chaque position négative, c'est quand même bizarre. Où il était démocrate chrétien, il a bien changé, où il a pris la démocratie chrétienne en sachant où il va. En particulier, quand j'entends l'héritier de la démocratie chrétienne, parti historiquement atlantiste, hurler encore plus que Jean-Pierre Chevènement contre le retour, entre guillemets, de la France dans l'OTAN, dont on parlera peut-être, c'est-à-dire la fin d'un processus qui nous a déjà ramenés dans l'OTAN et dont personnellement je me réjouis. Je trouve ça très étrange. Donc j'aime pas ce lepenisme light qui fait qu'au même moment, il a deux aspects, François Bayrou. Il écoute Perlevade et il dit il faut réduire la dette. Il écoute Jean-François Kahn et il dit il faut faire un grand plan de relance par la consommation. Je veux dire, quand on est un homme politique responsable, on doit avoir un minimum de cohérence. Et puis, il y a une chose qui me trouble beaucoup plus chez François Bayrou. Je vais utiliser une métaphore littéraire, mais je l'expliquerai. François Bayrou veut jouer à Peggy, c'est-à-dire le catholicisme de progrès. Je trouve que parfois, il ressemble à Barrès, c'est-à-dire le catholicisme réactionnaire, et que je me demande s'il n'y a pas un soupçon d'ombre de Charles Maurras, c'est-à-dire un catholicisme hyper xénophobe qui parfois affleure. Et je vais vous dire une chose, que François Bayrou déteste Nicolas Sarkozy, c'est la vie politique, je veux dire. Enfin, détester, d'habitude dans la vie politique, on se déteste pas, on se combat. Je n'ai pas aimé pendant la campagne présidentielle, peut-être ai-je une ouïe particulière parce que je suis enfant d'immigrés, des propos du style « Nicolas Sarkozy n'incarnera jamais les valeurs de la France ». Il y avait un petit parfum « La terre, elle ne ment pas, et moi je sais ce qu'est la terre, lui ne le sait pas ». Et donc tout ceci me trouble.
Puisqu'on est au portrait à la main, j'aimerais que vous nous brossiez le vôtre, pourquoi pas. Vous avez parfois été sur des dossiers juge et parti. Vous avez été conseiller dans des dossiers, on peut en citer Suez par exemple. Vous avez conseillé à une époque Gérard Mestrallet et puis Albert Frère qui lui voulait que Gérard Mestrallet quitte la présidence de Suez. Quelle est la dimension psychanalytique de votre personnage?
Non, mais alors je vais pas avoir l'impudence de vous reprendre une seconde fois.
Si, si, allez-y.
Écoutez, j'ai conseillé Suez, j'ai eu un conflit avec Gérard Mestrallet, j'ai respecté une période de veuvage de 2 ans, c'est-à-dire le double du veuvage bourgeois classique, avant de m'occuper d'une de ses entreprises concurrentes. Et je pense que, vous savez, depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire depuis 17 ans, regarder et par certains détestés comme je le suis, si on avait pu me prendre en conflit d'intérêts, je vous assure qu'on y serait parvenu.
Et je vous écris des choses.
Oui, par Laurent Mauduit qui exerce la fin du combat mené par Edoui Plenel et lui contre Jean-Marie Colombani et moi. Mais je suis sûr que si j'avais un vrai conflit d'intérêts, la presse telle qu'elle aime l'aurait bien montré du doigt. Jusqu'à présent, ça n'a pas été vrai et je vous mets au défi pour les 10 ans qui viennent, jusqu'au moment où j'arrêterai de travailler.
Pour revenir à des choses peut-être un peu plus importante. Dans les 10 jours qui ébranleront le monde, il y a le jour, dites-vous, où Israël attaquera l'Iran. Pensez-vous que ce jour puisse venir, et peut-être assez vite?
Je crains que ce ne soit pas une fable. Qu'est-ce que je dis? Je dis, le jour où l'Iran annoncera qu'elle a la bombe atomique, même si elle ne l'a pas, Israël risque d'attaquer. Pourquoi? Bon, j'essaye d'expliquer à un moment donné, je dis Israël est un anti-État hegélien. Alors c'est un mot un peu prétentieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, fondé sur une des raisons admirables, qui était le sionisme, est un État qui n'est pas gouverné uniquement par la raison. Et donc Israël ne peut pas, tel qu'il est bâti, admettre d'être en risque de survie. Donc, je pense qu'il
est... C'est pas totalement déraisonnable,
ça. Non, mais les Israéliens sont extraordinairement conscients des conséquences qu'il y aurait à une attaque sur l'Iran, car malheureusement, si une attaque sur l'Iran était l'équivalent de l'attaque qu'ils avaient menée sur l'Irak en 1981 ou 82, au fond, disons le mezza voce, nous serions tous pour. C'est-à-dire une attaque ciblée qui fait disparaître une centrale nucléaire. On sait très bien qu'une attaque contre l'Iran serait malheureusement improductive. On sait très bien quelles seraient les conséquences, le blocage du détroit d'Ormuz. On sait donc très bien que les Américains seraient obligés d'intervenir. Mais malheureusement, si on n'arrive pas à tordre le bras de l'Iran avant, c'est un très gros risque, oui.
Mais Israël ne passera jamais à l'attaque sans le feu vert des Américains, probablement.
Je pense qu'Israël aurait fera comme il aurait lui arrivé de faire, c'est-à-dire ne préviendrait pas les Américains, car Israël ne peut pas passer outre un veto explicite des Américains, mais Israël peut se dispenser de l'accord préalable des Américains.
Alors j'espère que vous allez pas me reprendre une troisième fois. En 1978, vous aviez rédigé avec Simon Dorin un rapport très important, me semble-t-il, hein, sur l'information de la société. Il y avait ce que vous avez appelé la réseau télématique, hein, c'est-à-dire l'émergence d'Internet. Ça, c'était bien vu. En revanche, vous n'aviez pas vu du tout arriver les Apple, les ordinateurs individuels. Comment est-ce que vous voyez... Non, c'est important. C'est important. C'est important dans le système. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui évoluer la chaîne du multimédia? On a parlé tout à l'heure de la difficulté des groupes de médias en France. Le fait qu'il n'y a pas de grands groupes, hein, de médias en France. Comment est-ce que vous voyez évoluer cette chaîne du multimédia?
Il y a une réponse dans le livre. C'est Google qui achète le New York Times.
Oui, il y a une fable qui est de dire Google achète le New York Times pour $1. Je vais même vous dire que avant les épreuves, j'avais mis 2017. Et puis quand j'ai vu ce qui se passe au New York Times, c'est corrigé, j'ai mis 2011.
Vous vous trompez.
Mais je crois que le problème de la presse américaine est assez particulier. Écoutez, je ne sais pas ce que sont les modèles économiques sur le net. Je veux dire, et en particulier dans l'univers qui est celui des médias, on ne voit pas apparaître encore le modèle économique. C'est-à-dire, on ne voit pas où va se faire le financement, le profit. Et donc, je regarde ça avec passion, mais beaucoup d'humilité.
Vous en conviendrez, Alain Minc, Le Figaro est un journal bien informé. Alors, il y a quelques semaines, il a mis ceci, entre guillemets, dans votre bouche. Si ça ne marche pas avec François Fillon, c'est parce qu'il a le même âge que Nicolas Sarkozy. Le président doit nommer un Premier ministre plus jeune ou plus vieux. C'est votre raisonnement, ça, Alain Minc ?
Écoutez, vous voulez m'amener sur le terrain de mes dialogues avec le président de la République.
Ah non, vous allez cite Le Figaro, là.
Non, mais attendez, vous allez, là, je suis obligé de descendre la herse. Donc, je ne vous dirai rien de ce qu'il peut m'arriver de dire au président de la République.
Mais, alors, excusez-moi d'insister un petit peu. Là, ce sont des guillemets.
Mais ça va très bien.
Vous prononcez ce genre de phrase?
Oh non, d'abord.
C'est une phrase qui vous ressemble, non, ressemble à votre pensée, ça?
Non, écoutez.
Si ça ne marche pas avec Fillon, déjà, dès le moment
la règle journalistique est de soumettre la citation entre guillemets, par inadvertance n'a pas été respectée par ce grand journal. Alors, si vous voulez revenir aux relations du président de la République et du Premier ministre, et je le dis comme tel, je pense qu'on est en train de vivre une révolution constitutionnelle qui mêle deux éléments, qui sont le quinquennat et la révision de la Constitution et l'accroissement des pouvoirs du Parlement. Et je crois qu'en réalité, ce n'est pas une affaire d'agencement d'hommes. Je crois que les rôles ont changé. Le président de la République, dans ce système, est le chef de l'exécutif. Et le Premier ministre sera de plus en plus, en réalité, l'interface avec le pouvoir parlementaire.
Supprimer ?
Ah non, l'interface avec le pouvoir parlementaire, pour la raison que j'ai dite. C'est que la révision de la Constitution accroît le pouvoir parlementaire. C'est là qu'on est dans le paradoxe actuel qui fait qu'on fait grief au président de la République d'être un omnivore en matière de pouvoir. Or, il a fait une réforme institutionnelle qui dessaisit le pouvoir exécutif d'un certain nombre de ses attributs.
Mais il le fait plutôt bien, ça, François Fillon, l'interface avec l'Assemblée.
Mais c'est ce que je pense. C'est pour ça.
Enfin, vous disiez tout à l'heure au début de cette émission que le facteur psychologique était important.
En économie.
En économie, donc dans la politique. On peut constater tout de même, par rapport à l'optimisme du président de la République, une forme de pessimisme chez le Premier ministre. Ça, c'est quelque chose qui vous gêne, Alain Minc ?
Oh non, vous savez, il y a beaucoup de demeures dans la maison du père.
Vous aimez vous évader avec quelques formules de ce genre de problématiques.
Sur ce terrain-là, j'arriverai toujours à m'évader.
Et alors l'écho, pour être complet, parce que ceux qui nous écoutent ne l'ont peut-être pas lu, disait que Alain Minc pousse pour une nomination à Matignon le moment venu de Xavier Darcos. Bon, on en apprend des choses en lisant Le Figaro, Étienne. Hein.
Oui.
Écoutez, je ne sais rien de ce qu'il m'arrive de dire au chef de l'État.
Et le chef de l'État, dans son exercice, on dit hyper-président,
vous savez,
il en fait trop.
On appartient tous peu ou prou aux mêmes générations. On a des souvenirs, donc. Moi, j'avais des relations amicales avec Pierre Mauroy, pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de respect. C'est lui qui a sauvé l'économie française en 83 en imposant la rigueur à François Mitterrand. Je me souviens des récits de Pierre Mauroy sur les années 81-82. Je ne suis pas sûr que la situation de Pierre Mauroy face au pouvoir omniprésent et hiératique de François Mitterrand était plus confortable que celle de François Fillon face au pouvoir omniprésent mais moins hiératique et donc quand même plus humain de Nicolas Sarkozy.
Vous qui êtes universitaire, on peut le dire, proche du monde de ce monde intellectuel.
Je ne sais pas ce que je suis.
ce conflit entre le président de la République et le monde de l'université, et notamment les responsables universitaires appuient, nourrissent ce conflit de déclarations qu'ils ont jugées maladroites du chef de l'État le 22 janvier à l'Élysée.
Est-ce que
vous partagez leur point de vue?
Est-ce que vous me permettez de regarder cette affaire d'un peu plus loin?
Oui, bien sûr. J'ai regardé un peu trop. Du ras des pâquerettes.
Il faut mesurer la bataille pour le savoir entre les grandes universités du monde entier. Il faut penser que ces universités sont les machines à faire les chefs du monde entier. Il faut penser que les positions de pouvoir se jouent là. Il faut penser à ce qu'est Harvard, il faut se demander, penser ce qu'est l'université de Pékin, se dire qu'il n'y a en Europe que finalement les universités anglaises qui sont au niveau, et se demander comment on peut ne pas être éjecté totalement du peloton. Ceci veut dire que la loi sur l'autonomie, c'est un pas en avant, mais c'est encore très loin de ce qu'il faudrait. Le plan campus qui enfin admet qu'il n'y a pas d'égalité en toutes les universités, qu'il peut y en avoir des plus grandes, plus fortes que d'autres, c'est un pas en avant et on est quand même loin de ce qu'il faudrait. Quant à l'histoire des enseignants-chercheurs, vu à cette aune-là, c'est un débat dérisoire. Mais vous savez comme moi ce qui est derrière les enseignants-chercheurs. C'est qu'il y a une spécificité française, c'est les pouvoirs parfois sont confrontés aux jeunes dans la rue. C'est le seul pays, à part la Grèce, ça a été un accident. Et il est bien clair que le gouvernement ne veut pas que derrière les enseignants-chercheurs se profilent les étudiants dans la rue, et il a bien raison, de la même manière qu'il a bien eu raison de retarder la réforme lycéenne. C'est une deuxième spécificité française. Nous en avons deux, la radicalité à la Besancenot et les manifs de jeunes.
Voilà. Donc ce grand jury est terminé. Je rappelle le titre de votre livre, Alain Minc, Les 10 jours qui ébranleront le monde chez Grasset. Vous l'avez peut-être dédicacé à... Ah, j'oublie son nom, tiens, le patron de la CGT, à Bernard Thibault, puisque vous disiez son admiration pour lui.
Oui. Non, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire demain, maintenant que j'ai affiché publiquement. Voilà. J'ai fait mon coming out.
Voilà, vous l'avez fait, donc c'était au grand jury. On se retrouve dimanche prochain, même lieu, même heure. Bonsoir.